prédication du 25 août 2007 apportée par le pasteur Alain Ouvrard sur le thème « Les saisons de la vie ».
Le Seigneur m'a mis à cœur un texte, c'est venu comme ça. Hein. Alors on va le partager comme le Seigneur a mis cette parole sur mon cœur et je pense qu'elle correspond à notre rencontre ce matin. Alors je vous propose que nous ouvrions le livre du prophète Joël au chapitre 2, verset 21. « Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. » La pensée qui est sur mon cœur ce matin, c'est particulièrement parmi toute cette promesse de bénédiction que Dieu répand sur son peuple, c'est quand il nous est dit « Il vous donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Tout le monde connaît ces paroles qui se trouvent bien placées dans notre Bible. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose, pour tout sous le soleil. Alors il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, ou cueillir si vous voulez, c'est peut-être... Et puis il y a toutes sortes, là, de pensées qui finalement, montrent que Dieu a rythmé l'histoire de la terre, l'histoire des hommes, de cette manière, un temps pour ceci, un temps pour cela. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Quelle curieuse expérience, mais aussi quelle curieuse école que Dieu a voulu pour l'homme en conditionnant son existence au rythme d'étapes successives que nous appellerons ce matin les saisons de la vie. Et nous allons nous inspirer, de ce temps pour ceci et ce temps pour cela. Et comme Dieu lui-même a fait en sorte que notre planète, notre Terre, soit aussi à ce même tempo, nous allons nous en inspirer par rapport à notre vie. Vous le savez aussi bien que moi, la nature est réglée admirablement selon un principe immuable. Et depuis que l'homme est sur la terre, même s'il y a quelquefois des variations climatiques, en tous les cas, nous savons, et le calendrier nous le rappelle, et quelquefois, certaines impressions de température en hausse et en baisse nous le montrent, qu'il y a des saisons qui se succèdent. Alors on va rappeler des choses connues. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, et puis il y a l'hiver. Alors, c'est quelque chose que nous connaissons naturellement. Je pourrais décliner les choses de cette manière, je pourrais dire qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, mais nous, nous savons qu'il y a quelque chose de tout à fait au-dessus de cela, c'est qu'il y a aussi un temps pour renaître, et nous allons lui donner le nom, et la Bible l'appelle « ressuscité ». La vie des hommes suit cette marche inexorable vers une destination où le temps de la terre disparaîtra dans l'éternité céleste. Et ça, c'est notre espérance que nous avons au fond du cœur. Et mes frères et sœurs qui, eh bien là, avaient une expérience de vie, vous savez, et même nous-mêmes, nous le savons, c'est que nous nous approchons, eh bien, de cette dimension où là, eh bien, ce qui a été ne sera plus, ne reviendra plus, c'est forcé. On appelle ça le passé. Mais ce qui fait la différence peut-être avec l'homme qui ne connaît pas, qui n'a pas d'espérance en Dieu, c'est que nous nous allons du bon côté. Et nous allons vers la bonne destination. Et nous savons que quelqu'un qui nous aime nous attend. Et je dis bien que finalement, eh bien, notre destination nous conduit de ce temps de la terre et ce temps va s'évanouir, va disparaître dans cette éternité du ciel. Qui dit saison pense au processus de renouvellement. Ce n'est jamais pareil. Nous pensons également au développement. Nous avons aussi cette pensée de croissance qui a pour fruit, eh bien, l'abondance. Et s'il y a une saison d'abondance, c'est bien l'été, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais toutes les saisons ont leur raison d'être. Et on sait que cette disposition que Dieu a prise pour la terre, pour notre terre et pour nous, ses créatures, et pour nous, ses enfants, alors on sait très bien que la poésie, la musique, la peinture et tous les arts de l'homme, eh bien, puisent leur inspiration dans cette variation perpétuelle de la création qui bouge, qui change de visage 4 fois l'année. Et si nous contemplons quelque peu eh bien, ce que les hommes sont capables de produire, tant en musique, vous connaissez les 4 saisons de Vivaldi, vous connaissez les tableaux peut-être de certains peintres qui ont dépeint admirablement avec le savoir du don qu'ils ont reçu, eh bien, dépeindre finalement des paysages extraordinaires dans, et le même paysage, mais sous différents aspects. La poésie aussi en parle. Chaque saison est empreinte toujours d'une attente. Ouais. Et vous savez, nous passons notre vie, je fais une petite parenthèse, nous passons notre vie à attendre. Il y a des choses qui sont indifférentes ou qui sont sans importance, mais il y a des choses que nous attendons et qui sont très très importantes pour nous. Donc il faut bien se dire que chaque saison est marquée par une attente et pour celui qui sait observer, eh bien, c'est toujours des promesses de bénédiction nouvelle où la joie est indissociable à la notion d'enfantement. C'est cela, hein. Vous savez que nous souffrons, mais la nature souffre aussi. Et ça ne se fait pas comme ça. Elle souffre quelquefois en pleine germination, en pleine floraison. Vous avez des retours de l'hiver, toutes sortes de choses ou des vents violents à n'importe quelle saison qui cassent et qui brisent. Mais qui, quelque part, eh bien, n'arrêteront jamais la vie. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours la vie qui sera là. Et c'est toujours cette joie qui est marquée. Eh bien, redisons-le, elle est indissociable à la notion d'enfantement et chacun sait qu'il n'existe pas d'enfantement sans souffrance. Mesdames, vous en savez quelque chose. Les messieurs un peu moins, parce que nous voyons ça de un peu plus loin, mais vous savez ce qu'il en est. Et je pourrais dire, ainsi va la vie. C'est comme cela. J'ai ce texte sous les yeux de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8, où il nous est parlé de ce processus de la nature, où il y a à la fois la souffrance et une explosion de joie. Quand nous avons sous nos yeux cette parole, ainsi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, parce que les hommes, certains hommes se rendent compte que l'on maltraite le don que Dieu nous a fait, à travers la planète qui est notre habitat. Mais on sait une chose, c'est qu'il viendra un temps où tout cela sera libéré. Tout cela, eh bien, trouvera véritablement une joie parfaite après certainement des temps et des temps de souffrance et de peine. Alors il y a cette notion qui est celle de la foi. La foi pour que jamais la vie ne s'arrête. Et tant qu'il y aura de la foi, eh bien, Dieu sera là pour l'honorer. La foi qui nous fait entrevoir la saison suivante. Nous soupirons aujourd'hui après l'été, qui est derrière nous. Quand nous serons au mois de janvier, nous soupirerons après le printemps. Parce que, inévitablement, le printemps viendra. Après la nuit, il y a le jour. Et puis c'est comme ça dans la vie. Et ça, c'est une formidable espérance que nous avons dans notre cœur. Parce que nous croyons que notre Créateur a réglé les choses, a mis les choses en place. Il a donné un tempo de vie. Et nous savons intuitivement que, je vous dirais, après la pluie, vient le beau temps. Ce sont des lieux communs, tout ça, mais c'est pour vous dire que tout simplement, on sait les choses. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Parce que c'est parce que nous le croyons. Après les douleurs, il y a toujours des temps de rafraîchissement et de bénédiction de la part de Dieu. Quoi qu'il en soit. J'aimerais donner quelques mots sur les saisons de la vie. Et nous allons commencer par... Bah oui, parce que le printemps, c'est le premier. On commence souvent comme cela quand on cite. Hein, on ne les cite pas à l'envers, on les cite de cette manière. Le printemps. Le printemps évoque spontanément l'éveil qui fait sortir la nature de son engourdissement. Et il n'y a rien de plus beau, si nous voulons le comparer à la vie humaine, qu'un enfant qui arrive au monde. C'est beau. Les premiers émois, les premières réactions, les premiers sourires, la fraîcheur, c'est quelque chose, c'est le printemps de la vie. Et c'est magnifique. Et on ne peut pas rester indifférent devant un enfant, devant un bébé. Ils sont toujours beaux, quoi qu'il en soit. Ils sont surtout beaux pour la maman, de toute manière, ils seront beaux pour tout le monde. Alors, ça c'est le printemps. Et je dirais que le printemps est là pour nous donner une leçon, c'est que nous passons progressivement, sans nous apercevoir, de l'innocence à la connaissance. Un enfant, quand il arrive, il a tout à apprendre. Hein. À moins que nous ayons la science infuse et que nous sommes venus avec des livres de science, de connaissances universelles sous les bras. Mais ça, c'est, en principe, c'est très très rare. Il y a des précoces, hein, quand même. Mais jamais à ce point-là, de toute manière. Et nous allons vers la connaissance de l'innocence. Vers la connaissance. Et qu'est-ce qu'on en a à apprendre dans les premières années de notre vie? D'ailleurs, de toute façon, les hommes s'y sont pas trompés, à l'école. Ça commence par la maternelle, etc., etc., primaire, ensuite secondaire, et puis les études supérieures. Et quelquefois, il y en a qui sont encore à l'école jusqu'à 30 et quelques années. On apprend. Ça, c'est les choses courantes de l'existence. C'est donc le temps où l'on apprend. On croit tout savoir. Peut-être par le fait qu'il y a une intensité de connaissances qui nous arrive. Et il paraît que chez un petit enfant, c'est dans les premières années que le cerveau enregistre le maximum. Et on croit tout savoir. Regardez un jeune homme de 18-20 ans, il sait tout. Hein. Peut-être savions-nous tout à une certaine époque, mais aujourd'hui nous ne pourrions pas dire la même chose. Parce que plus on va, on en sait de moins en moins. Et quand on arrive au terme, devant l'éternité qui s'ouvre, on dit « Seigneur, mais je ne sais plus rien du tout ». C'est au printemps que germent les graines du futur. Eh oui. On parle d'âge idéal, parce que c'est la fraîcheur, c'est la beauté, c'est la vitalité qui sont au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'admirable de voir des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, dans toute la dimension de ce que Dieu a voulu qu'ils soient, c'est-à-dire des choses, surtout à l'extérieur. C'est surtout à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à apprendre à l'intérieur, mais ça évoque finalement l'âge idéal. Et puis cette jeunesse, on la croit éternelle, on se dit de toute façon, oh là là, ça va durer longtemps, et on peut s'en souvenir, quand nous avions 20 ans, on voyait des gens qui avaient 50 ans, c'était déjà des vieux. On est tous passés par là, hein, l'impression que ça nous a laissé, ça c'est sûr. Alors je vous dis pas ceux qui avaient les cheveux blancs à 90 ans, oh là là, c'était... Mais C'est vrai qu'on pense que la jeunesse est éternelle. La curiosité et la découverte est en tout et elle est partout. On s'intéresse à tout, on veut tout voir, tout regarder. Mais le grand défi de la jeunesse est dans le choix, ou je dirais dans les choix. Et ces choix-là vont marquer le reste. On ne le sait pas. Mais il y a des décisions qui sont prises à l'aurore de la vie. Et s'ils sont bons, nous pouvons présager une bonne vie. S'ils sont mauvais, il y aura certainement des problèmes en cours de route. Et le meilleur, dans le choix du meilleur, où l'apparence est disputée à la profondeur. C'est toujours le grand dilemme entre la passion et la raison. Mais faut-il quelquefois passer par ce chemin, en apprenant ce que veut dire le mot passion avec ses hauts et ses bas pour en arriver à la raison? Et ça ne s'acquiert pas comme cela. C'est toute une école, je vous le disais. Le danger de cette saison de la vie que l'on appelle le printemps est de prendre des raccourcis pour aller plus vite. Et vous avez certainement des enfants, des petits-enfants, et nous l'avons été aussi. On veut accélérer le rythme. Ça va jamais assez vite, naturellement. Jamais assez vite. Et l'on sait toujours plus tard, parce qu'on apprend les choses de toute manière, parfois même trop tard, que les raisins verts font grincer des dents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression biblique, ce que je prends. Les raisins verts font grincer des dents. Et on se dit, si j'avais su. Ben oui. On le savait peut-être, mais on n'a pas voulu peut-être véritablement et bien faire ce que nous savions. Alors, c'est pourquoi, justement, le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle ceci. Vous connaissez ce texte, il est tellement connu. Et il s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras. » Et on dit beaucoup de choses à ce moment-là. Peut-être, si j'avais voulu, si j'avais obéi, si j'avais su. C'est une illusion de liberté. Parce que la vie s'offre à nous, parce que la terre est vaste, parce que finalement rien ne nous arrête. Et pour la jeunesse, pour le printemps de la vie, c'est toujours trop ou pas assez. Peut-être trop de discipline ou trop de choses qui nous sont rébarbatives, mais pas assez d'autres choses. C'est trop ou pas assez. Mais voici l'été. Parce que ça va, ça suit. L'été, c'est le fruit. On a vécu certaines choses. Et l'été, c'est le fruit. La saison précédente, dont nous parlions un instant, c'est-à-dire le printemps, a traversé tant bien que mal les intempéries. Et forcément, on récolte immanquablement ce que l'on a semé. Ça, c'est inévitable. C'est une loi qui est dans la Bible, mais c'est une loi qui est dans le monde. On le sait très bien. Ce que l'on sème, on va le récolter. D'une manière ou d'une autre, si c'est de la bonne semence, du bon grain, on sait ce qu'il en adviendra. Si c'est de l'ivraie, eh bien, il y aura probablement dans notre vie des mauvaises herbes. Alors, nous pouvons dire que ça, c'est une chose aussi très importante dans notre réflexion. Et la saison de l'été, c'est aussi, parce que nous avons dit que c'était le fruit, c'est la saison par excellence de la moisson. On moissonne. On construit dans cette période de la vie, qui va d'un certain âge à un autre. On bâtit, on s'établit. Une famille, un travail, une carrière. Nous sommes investis dans diverses responsabilités, toute autre chose. Et c'est aussi là où l'on vérifie la solidité des fondements de la maison en fonction des matériaux utilisés dans l'ouvrage. C'est là où il va y avoir les premières preuves. C'est là où il va y avoir les premiers éléments pour nous donner déjà un verdict, c'est bon ou c'est mauvais. Jésus n'a-t-il pas donné quelques critères d'évaluation ou d'estimation lorsqu'il dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 6 ? C'est très simple ce que je dis, mais je pense que ça rentre aussi dans notre réflexion. Au verset 47, il dit ceci : « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, qui ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Et puis le torrent s'est jeté sur elle, aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison était grande. Alors, des pluies, des torrents, des vents, des intempéries, il y en a. Hein. Vous en savez quelque chose, il y en a. Et elles viennent, ils viennent frapper notre maison-vie, notre vie à nous. Et je pense qu'il n'y a pas un homme qui est venu sur cette terre qui n'a pas connu des vents, des intempéries et toutes sortes de choses semblables. Mais va-t-elle résister ? Alors on sait que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, tant dans le domaine du travail, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. On apprend un métier, mais le fera-t-on ? On rentre dans une entreprise, y restera-t-on ? On s'établit dans une vie conjugale, mais restera-t-on ensemble ? Nous avons des enfants pour les aimer et pour qu'ils nous aiment, mais nous aimeront-ils jusqu'au bout ? Alors on peut multiplier les choses de cette manière. Le fondement, sur quelle base ? En été, il y a deux sortes de fruits. Si vous avez un jardin, vous allez vous reconnaître. Vous allez éprouver la satisfaction ou un sentiment désagréable en fonction de ce que vous allez cueillir. Alors il y a deux sortes de fruits. Il y a ceux qui sont mûrs à point. Et puis, ils sont savoureux. Et ils sont généreux aussi. Et puis il y a aussi les fruits gâtés, il y a les fruits chétifs et les fruits sans goût. Vous les prenez, puis vous dites, mais tiens, cette poire, elle a un goût de banane. Ou autre chose. Alors c'est vrai qu'on est dans une drôle de société, aujourd'hui on vous vend des fruits et on vous dit, regardez, ils sont beaux à l'extérieur. Il n'y a pas un défaut, ils sont même pas piqués, rien du tout. Mais quand vous passez le couteau dedans, vous mangez quoi ? De l'eau. N'est-ce pas ? Ah oui. Ben, je vois que vous êtes des connaisseurs. Expérimentez. Eh oui, deux sortes de fruits. Et vous savez, la vie, c'est quelquefois un petit peu comme ça. Il y a des choses qui sont gâtées, elles paraissent belles. Elles sont quelquefois d'apparence, mais elles sont chétives quand on regarde à l'intérieur. Et puis, il n'y a pas de goût. À la fin d'un bel été, alors à ce moment-là, la récolte est engrangée. Je parle de la manière des gens qui vivent à la campagne. Et cette récolte est engrangée pour quoi ? Pour dire, voilà, je suis un formidable jardinier, j'ai fait une récolte formidable, je la monte dans mon grenier ou dans mon cellier, et maintenant, je vais pouvoir y descendre tous les jours pour la contempler en disant, qu'est-ce que je suis heureux ? Non, elle est engrangée pour être bientôt partagée. Parce que les choses qui sont gardées pour nous-mêmes, ça fait comme la manne. Vous connaissez l'histoire de la manne ? Dieu avait dit, tout ce que vous conserverez au-delà de temps, etc. Eh bien, surtout ne le faites pas parce que ça va tourner en pourriture. Ça va tourner, finalement, ça ne sera plus consommable. Et nous arrivons maintenant à l'automne, parce que les greniers sont pleins à ce moment-là. Enfin, en principe, c'est comme ça que ça se passe. Puisque la saison de l'été a rendu son fruit avec abondance, je parle toujours dans la pensée de Dieu. Le meilleur moyen de fructifier encore et toujours, c'est de le répandre en générosité. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur des enfants de Dieu. La générosité et la libéralité. L'automne est la période des semailles, parce que je vais prendre dans mon grenier le blé. La bonne semence, et je ne vais pas le garder dans mon grenier, mais je vais faire quelque chose. Et ça, L'automne est la saison particulière des semailles, où ce que nous avons reçu est redonné pour être répandu à nouveau selon le principe suivant qui nous est laissé par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 et au verset 6 à 11, je lis le texte. Il est dit ceci, cette parole. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore et en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, de générosité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est une belle parole, hein ? Il n'est pas exclusivement parlé d'argent. Il est parlé de tout ce que Dieu a rempli. Nos cœurs que nous gardons et que nous allons finalement eh bien, dans la générosité de notre vie et de notre foi, alors à ce moment-là, partager. Imaginez-vous que les agriculteurs ou les céréaliers disent « on a fait une bonne récolte, mais tout reste là, ça ne bouge pas, nous le gardons ». Eh bien, vous savez que l'année suivante, il y aura la famine. Forcément, il y aura la famine, parce que il faut que ce principe qui est celui de recevoir et de donner, soit à nouveau répandu. Il y a ce proverbe que vous connaissez, je le rappelle, « Celui qui garde ne fait que s'appauvrir, mais celui qui donne largement s'enrichit, tout simplement. » Et à l'automne de la vie, peut-être avons-nous besoin de regarder et d'observer comment le semeur jette à la terre la semence qui nourrira la génération qui suit et la génération qui vient. Eh oui. Et le geste du semeur est un beau geste, Victor Hugo l'a bien dépeint, hein. Geste auguste du semeur, geste large, geste ample. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, il prend de sa possession, de ce qu'il a, ce que la terre lui a déjà donné, et il va l'abandonner. Il ne le fait pas dans un déchirement de cœur, il le fait dans l'espérance que ce qu'il fait, ça ne sera jamais perdu. Ouais. Ce sont des belles images. Maintenant, on a remplacé ce geste par des machines. C'est bien dommage. Enfin, c'est notre temps, c'est notre société. Alors il va jeter à la terre cette semence. Et il sait que ça sera sa nourriture pour lui, mais ça sera la nourriture aussi pour les générations. Et quand il s'agit des choses spirituelles, c'est aussi certainement primordial. Parce que, mes frères et mes sœurs, l'automne de la vie, c'est justement, eh bien, pour préparer l'avenir dans ce que Dieu vous montrera de faire, dans ce qu'il vous mettra à cœur de faire. Et pour revenir à notre semeur, sa main à chaque geste est pleine et il la vide. Et il la reporte et il la remplit et il la vide. Il fait ça des centaines, des milliers de fois. Et il jette cette semence vers le ciel. Il n'est pas là, comme on dit, à quatre pattes pour faire des petits trous, graine par graine. Non, il la jette vers le ciel. Et elle retombe naturellement, parce que ça c'est le phénomène de l'apesanteur. Mais il la donne à Dieu, parce que c'est Dieu qui lui a donné. Et Dieu va bénir la terre. Il va bénir les sillons. Il va faire en sorte qu'il y ait de l'humilité, qu'il y ait ensuite le frimas qui va passer. Il y a même le gel. Ensuite, les racines, ce qu'on appelle le talage, pour qu'elles prennent encore racine davantage. Après, il y aura la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison. Et ensuite, il se réjouira en pensant au mois d'octobre ou au mois de novembre précédent. Il dira, mais merci Seigneur, regarde, j'avais raison de t'avoir fait confiance. Parce que Dieu ne manquera jamais à ce qu'il a institué, à ce qu'il a mis en place. Alors peut-être les uns et les autres sachons, après tant d'années de grâce divine, engranger dans nos cœurs et dans nos vies, être autour de nous des semeurs d'espérance divine. Nous n'avons pas seulement que des céréales à donner, mais nous avons aussi tant de choses. Vous vous rendez compte des expériences que vous représentez les uns et les autres, la manière dont vous êtes convertis, la façon dont Dieu a traité et solutionné vos problèmes. Et vous en avez, ça c'est sûr. La manière dont il vous a gardé, dont il vous a protégé, la manière dont il vous a guéri. Mais c'est-à-dire aux autres. C'est à donner parce que quand on parle d'espérance, quand on parle de foi à notre génération qui vient, ils ont besoin d'en entendre parler. Et nous avons des trésors à nous tous. Alors des semeurs d'espérance divine. On pourrait parler d'automne de la maturité de la vie, à partager généreusement avec les uns et les autres. Et puis, la dernière saison vient. On y est déjà, hein, cette saison-là, maintenant, je crois, il me semble, non ? Presque. Voilà l'hiver. Le printemps, souvenez de ce qu'on a dit. L'été, l'automne, et voilà l'hiver. Et l'hiver, c'est, nous pourrions dire que c'est la préparation à une année nouvelle. On le sait intuitivement. Si on l'oublie, on regarde le calendrier, on va vite le rappeler, puis vous sortez en bras de chemise sur le pas de votre porte, vous allez voir que ça vient. Hein, là, vous allez le sentir, ça c'est sûr. L'hiver nous parle de repos. On l'a chanté tout à l'heure, hein, il y a longtemps qu'on n'avait pas chanté ce cantique. Hein. Quel repos céleste. Alors, on l'a déjà dans notre cœur, maintenant. Mais on l'aura parfaitement de l'autre côté, parce que nous sommes sauvés en espérance. Et nous nous réjouissons et nous chantons ces beaux cantiques. Alors, ça nous parle de repos et d'un certain sommeil. Vous avez vu comment tout s'appesantit à ce moment-là. Et un sommeil qui engourdit la nature, mais volontairement, comme une sorte d'anesthésie. La terre s'apaise de tous ses labeurs, hein, parce qu'on fait moins de choses à la campagne l'hiver que l'été, vraisemblablement. Et puis, elle s'apaise de tous les efforts, de toutes les agitations, de tous les bruits. À l'âge où la je voudrais vous faire un complément. À l'âge où la couronne d'argent... Oui ? Bien, vous voyez ce que je veux dire ? Les cheveux blancs. Fleurit la tête des hommes et aussi des dames, tout prend une allure de ralenti. Mes frères et mes sœurs, vous courez moins vite qu'à 20 ans, je suppose. Vous avez un peu moins de souffle. Il y a des activités où vous dites, maintenant je dois bien me résigner, mais je ne peux plus les faire. On est d'accord ? Ouais. Je vous comprends, ça commence à m'arriver. Vous allez me dire, mais il a encore tout son temps. Ben oui, bien sûr. Mais moi, quand j'ai eu 50 ans, il y a des amis chrétiens bien intentionnés qui m'a dit, parce que je commençais à avoir un petit peu de douleur et tout ça, il m'a dit, bienvenue au club, t'as pas fini, ça commence. Eh oui, ils avaient raison. Après, j'ai su ce que c'était. Puis encore, je ne sais rien, finalement. Enfin, c'est pour ça que il faut bien passer par là pour compatir avec les autres, parce qu'on peut toujours dire quand on a 20 ans, oh ben mon père, ma mère, ma grand-père, mon grand-père et ma grand-mère, bon, il faut qu'ils se remuent, hein, parce que bon. Attendez, parce que vous savez, hein, quand même, faut pas leur dire. Mais nous, on le sait, on sourit en dessous, on se dit, hey, ça va vous arriver. Voilà. Alors, c'est vrai que ça prend une allure de ralenti tout ça, et ça ressemble à un défi silencieux. Un déclin silencieux. Ce n'est que la préparation apaisée à un autre retour. Je dis bien préparation apaisée à un autre retour. Retour à la maison. Retour à la maison, à une autre vie, débarrassé de tout ce qui retient cette vie et de tout ce qui l'embarrasse. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle d'une manière tellement admirable. Dans Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 16 à 18, écoutez, c'est des paroles magnifiques. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage en hiver, et l'hiver de la vie ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, vous le savez, vous avez remarqué que nous avons quelques rides maintenant qui apparaissent. C'est terrible d'en parler, hein. Alors je passe, hein. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein. Eh oui, c'est extraordinaire de voir des frères et des sœurs qui ont une fraîcheur intérieure formidable, de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les éternelles, les invisibles sont éternelles. Voilà. Nous nous préparons dans cette période de l'hiver de la vie. C'est certainement plus silencieux, c'est plus apaisé, mais un retour à la maison. C'est l'heure où nous pouvons dire, où le croyant, l'enfant de Dieu peut dire cette parole, comme les disciples d'Emmaüs, où la nuit venait, où ils étaient découragés, où ils étaient dans une grande déception et une grande dépression morale et spirituelle, où nous pouvons emprunter leurs paroles et de dire à ce moment-là, mais reste avec nous, Seigneur. J'ai eu besoin de toi quand j'avais 20 ans, j'ai eu besoin de toi quand j'en ai eu 40, j'ai eu besoin de toi quand j'en ai eu 60, mais maintenant je suis arrivé à 80, mais reste avec nous. Là, on a besoin du Seigneur. On en a toujours eu besoin, mais encore plus, encore davantage. On en a toujours eu besoin. Mais là, on sent que nous avons besoin de poser notre tête sur la poitrine de Jésus en disant « Porte-nous, Seigneur, parce que je ne sais pas si je vais arriver au bout. » Reste avec nous, Seigneur, car le jour décline et nos cœurs brûlent. Nos cœurs ne nous brûlaient-ils pas lorsqu'il nous parlait des Écritures ? Et là, j'ai traduit de cette manière, mais le jour décline, notre vie décline, Seigneur. Les lumières de ce monde, de cette vie, vont s'éteindre les unes après les autres. Mais il y en a d'autres. Il y en a une autre qui va s'allumer et qui va chasser toutes les autres. Alors nos cœurs brûlent de te voir apparaître. La nuit de l'hiver, parce que la nuit est noire, surtout au moment de, on appelle ça l'équinoxe. C'est ça, c'est l'équinoxe ou le solstice? Non, c'est l'équinoxe, hein, l'hiver. C'est là où le soleil disparaît, où la nuit est la plus longue. Alors, quand la nuit est noire, ça permet de voir la lumière encore davantage. Quand c'est entre chien et chat, on distingue pas tellement, mais quand c'est bien noir, on voit vraiment la lumière. Et cela fait apparaître la splendeur lumineuse de l'éternité. Naturellement, c'est encore plus fort. Et c'est évident. Alors, les quatre saisons ont porté leurs fruits. J'aimerais terminer par une petite anecdote, vous voulez bien? Certains vous la connaissez parce que je l'ai donnée, mais peut-être dans le contexte de ce que nous disons des quatre saisons de la vie. Je dirais qu'il y a trois sortes, trois formes de vie. Il y a la vie prénatale, que nous appellerons la vie maternelle, dans le sein de notre mère. Il y a la vie humaine et temporelle, celle qui est la nôtre aujourd'hui. Et puis il y a la vie spirituelle et éternelle. Alors pour aider à comprendre, je rappelle cette petite histoire pour nous dire qu'il y a une vie après la vie. On l'a vu avec les saisons. Hein. Et je dirais qu'il y a eu une vie avant la vie. Vous voyez, nous sommes de passage. Nous sommes en transit. Nous sommes en transfert. Il n'y a que nous qui pouvons le dire, hein, les chrétiens, parce que il y en a d'autres qui pensent que on va devenir une petite souris ou un rat. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, manger du gruyère toute la journée, c'est bon, hein, sur tous les trous, mais quand même. Alors, je dis bien qu'il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie, mais il y a une vie avant la vie. Et si l'on posait la question à un embryon ou un fœtus humain, qu'est-ce qu'il nous dirait? Alors il dirait ceci. Deux yeux se forment dans ma tête. Et il s'interroge, mais pourquoi? Ici, dans le ventre de ma mère, il n'y a rien à voir. Et pourtant, il y a des yeux. Et puis, il se pose une autre question et dit, des jambes grandissent là où je suis. et je ne peux pas marcher. Et c'est vrai que c'est assez quand même étroit. Hein. C'est fait pour ça d'ailleurs. Il va un peu plus loin et puis il dit, mais j'ai des bras et des mains qui se développent et je ne peux pas les étirer. Et heureusement. C'est un petit peu comique, mais il y a quand même quelque chose. Alors il se pose la question, il dit, mais pourquoi faire cet attirail qui me gêne? Et je suis tellement à l'étroit. Vous savez, notre vie humaine, on est vraiment à l'étroit, hein, même si le monde est vaste. Hein. Mais avant, on était encore plus à l'étroit. Et cette croissance dans le ventre de ma mère semble si absurde. Alors, pourquoi faire tout cela? Et l'embryon, le fœtus, se met à réfléchir. Il se dit, à moins que, je ne sois fait pour une autre vie qui vient. Une vie pleine de lumière que mes yeux verront. Une vie pleine d'espace où mes jambes et mes pieds parcourront. Une vie dans un monde qui donnera toute sa dimension à mes bras et à mes mains. Alors, voilà aujourd'hui, je ne suis qu'un embryon et je ne sais pas pourquoi. Je suis là, mais pourtant, une autre vie m'attend. Et frères et sœurs, je voudrais vous donner encore une plus grande espérance dans la vie qui nous attend. On ne se souvient pas de ce que c'était avant dans le sein de notre mère. On nous l'a dit, on nous a expliqué un peu comment ça se passait, mais on ne s'en souvient plus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième dimension, la dimension du temporel, la dimension de l'humanité. Mais nous allons rentrer dans la dimension de l'éternité. Ouais. Et ça doit pouvoir nous réjouir et de dire merci Seigneur. Tu as fait les choses d'une manière extraordinaire. Et quand tu me fais passer par le printemps, je suis passé par le printemps. Tu m'emmènes et tu me conduis vers l'été. Tu me conduis ensuite vers l'automne, je sais pourquoi. Et puis, l'hiver de la vie. C'est pas un accident, c'est quelque chose qui entrouvre des perspectives qui vont me propulser, qui vont m'amener finalement près de toi, vers toi, à ta lumière, dans ton amour. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité, parce que tu nous révèles les secrets de la vie. La vie de cette nature, de cette création qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous instruit. Mais, Seigneur, tu nous révèles les secrets d'une vie qui vient. C'est vrai, Seigneur, nous gémissons, comme Paul le dit. Nous gémissons dans cette tente, nous gémissons dans ce corps, nous gémissons dans cette vie parce que nous nous sentons à l'étroit. Et nous avons, Seigneur, non pas sur le plan physique, mais sur le plan moral et spirituel, déjà l'équipement pour le ciel. Alors, Seigneur, nous ne savons pas toujours comment faire, comment les choses vont se passer, nous ne savons pas pourquoi ceci et cela, mais ce n'est pas que tu veux nous donner les raisons aujourd'hui. Tu es en train de nous équiper pour, la dimension céleste. Avec un caractère divin, un caractère de Christ qui va nous donner, Seigneur, de pouvoir rentrer dans ce monde de l'éternité. Dans ce monde où il n'y aura plus de peine, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus d'infirmité, où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus de mort. Seigneur, donne-nous de comprendre cela. Seigneur, dans le nom de Jésus. Notre prière à l'âge où nous en sommes arrivés, c'est de penser à ceux qui sont au printemps. Et de les préparer, Seigneur, de leur donner de passer de l'ignorance ou de l'innocence à la connaissance, mais la vraie connaissance. Et puis, Seigneur, nous voulons te remettre ceux et celles qui sont là dans l'âge mûr, dans l'âge du milieu, l'été, et qu'ainsi ils puissent se souvenir de la manière dont nous bâtissons. Et si nous construisons avec de l'argent, avec de l'or, avec des perles précieuses, eh bien, Seigneur, tout résistera au feu. Te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'âge peut-être qui est l'âge le plus commun de ce que nous sommes ce matin devant ta face, l'automne. Mais l'automne, ce n'est pas négatif. L'automne, c'est d'avoir reçu pour ensuite ouvrir nos mains, comme le geste du semeur, diriger notre main vers le ciel et l'ouvrir toute grande pour que la semence soit répandue. Et puis l'hiver, peut-être pour certains qui ont atteint le grand âge et dont tu as voulu conserver, Seigneur, les facultés physiques, les facultés morales, les facultés intellectuelles. Eh bien, nous te bénissons pour cela, Seigneur, pour nos aînés. Oui, bénis-les et fais-leur vraiment un grand bien. Dans le nom de Jésus. Alors, nous croyons, Père éternel, que nous y arriverons tous, à un moment ou à un autre. Et nous voulons tout simplement te demander que si les stimuli, les appétits, toutes ces choses qui appartiennent à la terre et qui nous ont fait vivre jusqu'à maintenant, s'éteignent, ces petites lumières qui s'éteignent autour de nous. Nous croyons, Père éternel, que tu veux faire le noir pour qu'au moment où la lumière jaillisse, eh bien vraiment nous la voyons dans toute sa splendeur. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Visite mes frères et mes sœurs ce matin. Donne-leur leur part de bénédiction. Moi, je te demande de leur donner une bonne santé physique. Je te demande de leur donner une bonne santé morale, une bonne santé cérébrale, afin qu'ils gardent leurs pensées, Seigneur, qu'ils gardent leur cœur, qu'ils gardent leur âme, qu'ils gardent leur esprit ardent et vibrant, Seigneur, pour toi. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons et nous te remercions. Oui, Seigneur, merci Jésus pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ces moments et cette journée. Gloire et louange à Jésus. Amen.